Nous poursuivons notre lecture, la lecture de l'Évangile qui nous est proposée et qui se trouve dans le chapitre 17, Luc 17, les versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur : augmente notre foi. Le Seigneur répondit : si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre, à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, lui dira-t-il : viens vite te mettre à table ? Non. Il lui dira plutôt : prépare mon repas, puis change de vêtements pour me servir pendant que je mange et bois. Après, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Doit-il remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites : nous sommes des serviteurs ordinaires. Nous n'avons fait que notre devoir. Que l'on lise ce passage ou n'importe quel autre de nos textes fondateurs où il est question de nous, et c'est souvent le cas, le constat s'impose souvent. L'être humain est spontanément habité par le doute et la défiance. C'est un premier réflexe qui vient souvent bien avant la confiance, bien avant l'énergie qui nous pousse en avant. Nous sommes hésitants par nature. Prudent ou froussard, c'est selon. Adam et Ève, au jardin d'Éden, avaient découvert leur fragilité et leur nudité. Mais plutôt que d'assumer cette vulnérabilité, ils avaient cherché à se dérober à leur propre responsabilité. Ils pressentaient qu'ils avaient voulu franchir une limite, et ils l'avaient bien voulu, franchir cette limite. Aspirer à une connaissance plus grande qu'eux, c'est noble, nous aussi, nous le voulons. Et leur incapacité aussi à assumer ce désir, parce que c'était peut-être un peu trop grand pour eux, leur incapacité à assumer tout cela avait généré non pas de la foi ou de la confiance, mais plutôt un surcroît de défiance envers Dieu, qu'ils avaient tellement du mal à fréquenter qu'ils souhaitaient presque le fuir ou s'en cacher, mais aussi défiance envers eux-mêmes. Il suffit de se rappeler leur besoin d'expliquer leur choix en l'attribuant à quelqu'un d'autre. « Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as placée à mes côtés. C'est pas de ma faute, c'est le serpent, etc. etc. » Bon, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Il y a deux nouvelles là-dedans, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que nous sommes toujours enclins à dépasser nos forces, à chercher plus haut, sans savoir peut-être comment y parvenir. La bonne, qui compense à peu près, c'est que ce désir d'élévation n'est pas à considérer forcément comme une malédiction. Il peut devenir un chemin, une ascèse, un exercice, enfin tout ce que vous voudrez, une voie d'élévation, quelque chose qui nous fait faire des progrès. Après tout, ce n'est pas totalement exclu. Ce qui apparaît comme une faute ou une limite peut être entendu comme une invitation à grandir. Vous voyez comme c'est ambivalent ces choses. Si nous nous rassemblons dans une communauté comme la nôtre, avec une foi commune, une confiance qui nous lie, c'est bien parce que nous acceptons aussi ce défi. Nous ne serions pas là sans cela. Celui de dépasser nos réflexes de peur et de défiance pour nous ouvrir à une vie nouvelle, déployée, fructueuse. Mais qui ne va pas de soi. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Alors, la question se pose, ambition démesurée ou espérance increvable? Et les deux, peut-être, sont contenus dans ces textes-là. On est tenté de se demander, avec naïveté, mais comment faire autrement, qu'est-ce que Dieu avait en tête à l'origine? Qu'est-ce qu'il voulait pour nous avant que l'humanité n'introduise du déséquilibre, ce qui est une constante chez nous? Les prophètes de l'Ancien Testament avaient tenté d'exprimer ce projet premier d'une autre manière. Ésaïe, par exemple, avait évoqué ce temps de paix où, vous savez, le loup et l'agneau doivent paître ensemble, c'est-à-dire brouter paisiblement, tranquillement, l'un avec l'autre, le prédateur et la proie, dans la belle chaîne alimentaire, tout d'un coup pacifiés et se couchant l'un à côté de l'autre pour brouter la même herbe. Une nature, notre nature, la nature, le monde enfin réconcilié. Évidemment, le rêve prophétique se heurte toujours à un mur, le mur du réel et de l'expérience quotidienne que nous avons de ce monde. Les loups restent des prédateurs. Les bergers d'aujourd'hui ne se réjouissent pas de la réintroduction du loup dans certaines vallées. Ça ne les réjouit pas du tout. La prolifération des renards agace l'éleveur de poules. C'est comme ça. Ce réalisme rappelle que l'idéal divin ne se réalise pas spontanément ou ne va pas de soi. La violence du monde, la loi de la survie, la lutte entre les êtres vivants nous paraissent inéluctables, et elles l'est sans doute, mais ces visions prophétiques restent tout de même, ces invitations. Elles restent comme des inspirations parce qu'elles nous rappellent que nous sommes appelés à humaniser le chaos, à organiser le désordre, à transformer ce qui est sauvage en un monde habitable. Et c'est à notre portée. Mais notre esprit oscille. Nous entrevoyons parfois cette harmonie, puis nous retombons dans le découragement. Le chaos semble l'emporter, c'est souvent le cas, et nous nous laissons aller à la résignation. Mais la conversion qui nous est demandée ne concerne pas les loups ou les serpents qui cesseraient d'être venimeux ou les renards qui cesseraient d'aimer les poules. Ils resteront, eux, ce qu'ils sont. La véritable conversion attendue, c'est la nôtre, évidemment. Que l'humanité passe de la prédation à la responsabilité. C'est nous qui sommes appelés à cesser d'être des loups pour devenir des agneaux ou des herbivores. Vous voyez l'ampleur de la conversion, à cesser d'être carnivore pour redevenir herbivore. Finalement, le véganisme est bibliquement fondé. Que l'humanité passe de la prédation à la responsabilité, c'est ça le royaume. C'est ce qui est en jeu. Le problème, c'est nous. Et, parce que tout est ambivalent, la solution aussi passe par nous. Il y a et l'un et l'autre. Les récits bibliques fondateurs nous le rappellent, après Adam et Ève, vous savez, vient le drame de Caïn et Abel, la jalousie, la violence, le sang, inaugure toute notre histoire qui contient ces choses-là. D'un bout à l'autre, l'humanité, dans sa quête de puissance, engendre plus souvent le désordre que l'harmonie, c'est comme ça. Nous croyons peut-être naïvement que nos projets sont parfaits sur le papier. Nous dessinons des utopies, des constructions politiques, économiques, sociales que nous imaginons impeccables. Et quand on les lit dans certains livres, elles ont l'air bien. Mais dans leur réalisation, ces projets échappent à notre maîtrise. Ce qui devait nous élever engendre souvent des déséquilibres nouveaux. Nous résolvons un problème en en créant trois autres. L'histoire humaine regorge de catastrophes nées de nos propres mains. Et ça suffirait pour nous décourager d'ailleurs. Catastrophique au point de ne pas se contenter de produire des désastres, mais de les intégrer dans des risques normaux ou acceptables finalement, dans notre mode de fonctionnement. Au lieu d'être remis en cause par nos échecs, nous les intégrons au point de nous y habituer parce qu'ils font partie de nous. Avons-nous à un moment quelconque de notre histoire été autre chose qu'une humanité prompte à saccager l'harmonie reçue? Et pourtant, cette harmonie demeure offerte. Elle est comme un outil que nous n'avons pas encore appris à manier. C'est Albert Schweitzer qui disait que le christianisme n'avait pas encore été véritablement utilisé. Peut-être de cela qu'il est question aussi. On pourrait même dire la même chose de ce commandement fondamental « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » que tout le monde connaît et que nous récitons régulièrement. Voilà l'outil confié à l'humanité, mais il reste pour l'essentiel inutilisé ou mal entretenu, donc peu fonctionnel par moment. La demande des apôtres en Luc 17 résonne avec force et on se demande si ça n'est pas déraisonnable de dire « Seigneur, augmente en nous la foi, donne-nous en plus ». Jésus ne condamne pas, ne culpabilise pas, sa réponse paraît un peu sèche, mais il constate seulement notre fragilité. Son enseignement ne vise pas à nous enfoncer, mais à nous remettre à niveau, à nous réorienter vers ce projet divin d'équilibre et de justice qui passera par nous, forcément, puisque c'est notre conversion qui est attendue. Quand Jésus affirme que la foi, même minuscule, peut déraciner n'importe quoi, planter n'importe quel arbre, même bien planté dans le sol, et le jeter dans la mer, il rappelle que la solution n'est sans doute pas à rechercher dans nos seuls efforts, mais dans des efforts plus grands que nous, collectifs, dans l'inspiration toujours vraie d'une parole de Dieu qui n'est pas la nôtre. Nous oscillons, c'est vrai, entre l'espoir et le découragement, mais une confiance vraie, même réduite à la taille d'une graine de moutarde, ouvre des possibles dont nous n'avons même pas idée. C'est peut-être la pointe de la réponse de Jésus. Je vous en donnerai bien davantage, comme vous me le demandez. Exploitez donc un peu mieux ce que vous avez, le peu que vous avez déjà reçu. Vous n'avez même pas idée de ce à quoi cela peut vous conduire. Et quand il ajoute la parabole du serviteur, il nous recentre. La foi n'est pas un pouvoir à exhiber, mais une disponibilité. C'est autre chose. Celui qui a travaillé au champ ne s'assied pas à table avant d'avoir servi son maître. Voilà, c'est comme ça. Le disciple est appelé à se reconnaître comme un serviteur qui ne revendique pas de mérite, mais qui se contente de dire « Eh bien, je n'ai fait que mon devoir ». Notre réflexe naturel en entendant ce genre de choses face à nos déséquilibres est plutôt d'accuser quelqu'un d'autre ou de tout prendre sur nous, de nous accuser nous-mêmes d'être écrasés de culpabilité. Au lieu de chercher une solution, nous cherchons des responsables à blâmer. Ça, c'est souvent le cas. Le besoin de bouc émissaire est assez ancien. Il ressoude artificiellement une communauté en déplaçant le problème, hélas, et en rejetant la faute sur un seul qui, en plus, généralement, n'a rien fait, ou pas grand-chose. Mais cette logique n'apporte pas la paix. Elle perpétue la violence, ça, nous le savons aussi. Jésus propose au contraire quelque chose de bien différent dans cette parabole, une autre démarche. Rien de révolutionnaire, vous me direz, mais il évoque simplement la justice élémentaire, celle qui consiste à reconnaître le travail de chacun et à veiller à ce que ceux qui ont peiné soient nourris. Derrière cette banalité se profile une vérité peut-être essentielle pour nous. L'équilibre du monde que nous cherchons passe par des justices concrètes, par des gestes de service et de partage. C'est comme cela que nous posons le royaume. Évidemment, face à ce programme réjouissant, l'histoire de l'Église ou celle de l'humanité témoigne que ces principes ont parfois été appliqués. Oui, dans des communautés restreintes, ça marche. L'équilibre, la justice peuvent être vécus avec une relative stabilité. Et puis, on a de l'ambition, on veut s'étendre, on veut s'agrandir. Dès que l'échelle s'élargit, dès que l'ambition grandit, les déséquilibres ressurgissent. Pas de chance. Comme si nous n'étions pas capables de faire les choses en grand ou de vivre ces choses-là plus longtemps que quelques heures après leur sortie d'un carton à dessin. Comme si nous étions incapables de ça. Eh bien, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est « ne vous découragez pas ». C'est cela qu'il faut aller chercher, presque un ordre, un encouragement dans un discret conditionnel. Si vous disiez à ceci, il vous obéirait. Allez-y, faites-le, ne vous découragez pas. Il ne nous promet pas une harmonie universelle parfaite, stable, définitive et simple à mettre en place. Il n'a pas cette naïveté-là, mais il nous invite simplement à garder le désir de ce royaume, à poser des actes qui anticipent cette paix promise. Même si l'idéal reste partiellement hors d'atteinte, nous savons qu'il est déjà fructueux quand nous commençons à marcher en sa direction. Mais il reste cette parole troublante. Nous sommes des serviteurs inutiles. Si vous saviez le nombre de traductions possibles qui ont été proposées pour cet adjectif, inutile, ordinaire, quelconque. Enfin, il y a beaucoup de traductions possibles qui ont été proposées. Aucune n'est satisfaisante, hein, parce que personne n'a envie de se reconnaître dans quelque chose d'ordinaire, de quelconque, de terne, quelque chose qu'on oublie finalement, un bibelot devant lequel on passe sans sursauter parce qu'il ne nous intéresse plus. La pointe qui demeure, c'est que ce que nous faisons de bien n'est pas notre œuvre propre. C'est une manière d'entrer dans un projet divin qui nous dépasse. Nous pouvons le faire d'une manière quelconque, ordinaire, pas dans le sens terne, mais dans le sens têtu, résolu, qui ne lâche pas prise et qui marche, malgré les échecs, vers cet objectif. Voilà pourquoi cette parabole ne veut pas dire que nos efforts sont vains. Nous travaillons pour rien. Faire ce que nous faisons, restaurer nos locaux, accueillir ceux qui viennent, ceux qui manquent de tout aussi, parfois dans nos murs, témoigner de notre foi dans la possibilité toujours offerte d'un royaume, dans tout ce que nous faisons, œuvrer à notre unité même si elle ne va pas de soi, tout cela est précieux. Mais c'est précieux non pas comme une œuvre d'auto-glorification, mais comme participation modeste, mais têtue, résolue, à un idéal supérieur. Quand nous nous reconnaissons comme serviteurs, nous cessons de croire que nous avons inventé l'harmonie comme d'autres auraient inventé l'eau chaude ou le fil à couper le beurre. Nous acceptons simplement d'y collaborer autant que possible. Quand nous disons... Quand nous disons quelconque, ce n'est pas pour mépriser nos actions, mais simplement pour les situer dans leur juste lumière. Nous ne faisons que rejoindre, modestement mais résolument, une volonté de paix qui n'est pas née de nous, mais que nous savons pensible quand elle passe par nous. Notre monde change un peu quand nous y arrivons, à la mesure de nos moyens. Le message de Luc nous ramène sans doute à des choses essentielles ici. La foi, même infime, comme une petite graine, peut déplacer des montagnes ou déraciner n'importe quel arbre quand elle est enracinée en nous. Mais elle ne s'exprime pas par la grandeur de je ne sais quel exploit. Elle se vérifie dans la fidélité, la régularité des choses faites par devoir, par habitude et qui fonctionnent bien. La foi modeste et efficace de notre service. Nous sommes bien appelés à être des serviteurs, parfois quelconques, mais on pourrait dire aussi faibles, remplaçables en cas de faiblesse, mais jamais bons à jeter comme un outil qui ne fonctionne plus, jamais. Serviteurs d'un projet divin qui nous dépasse et qui nous ennoblit, et cela doit nous suffire, parce que dans ce service, nous cessons de temps en temps de créer de nouveaux désastres, et nous commençons même à réparer à notre mesure ceux qui existent. Amen.